rossignol et merle moqueur seront tous en fête.
Une tempête pour Ourika.
À vos postes, de TSS, pourtant, que la dernière fois. Il me semble vous reconnaître. Quel auditoire sympathique et charmant.
C'est Thomas de Hambourg et on devrait aujourd'hui avoir une tempête en deux parties. Et on va commencer par Ourika et on va enchaîner après avec un événement en défense du peuple rom. Alors la première partie aujourd'hui autour d'Ourika de Claire de Duraznay, pas en direct mais enregistré, je vous expliquerai pourquoi. Mais ce n'est pas ça l'important, ou en quoi que. Alors ce qui est important c'est que ce spectacle est à l'affiche au théâtre Darius Milo jusqu'au 25 avril, seulement une fois par semaine, tous les dimanches, pardon, je dis n'importe quoi, attention, tous les mardis à 19h. Un petit peu d'Ourika, en principe c'est pas nécessaire parce que tout sera expliqué dans notre conversation avec avec la metteur en scène Elisabeth Tamaris, avec la comédienne Marie Plateau et Alain Fichou, trois personnes pour ce spectacle qui vont nous éclairer sur Ourika. Tout simplement Ourika. On va vous expliquer de quoi il s'agit. Ourika mis en scène par Elisabeth Tamaris, interprétée par Marie Plateau, avec l'aide, je ne sais pas laquelle, mais il y a une éminence grise derrière tout ça qui s'appelle Alain Fichou, qui est avec nous et qui peut nous renseigner aussi, parce qu'il y a plein de couches là, de qui parle de la littérature de différentes époques et d'une révolution, du colonialisme, etc. Alors, Elisabeth, tu nous racontes un peu, tu nous introduis en la matière. Qui est Ourika ?
Qui est Ourika ? Ourika, c'est une jeune fille, il y a la vraie Ourika, la véritable Ourika, c'est une jeune fille qui a été sauvée de l'esclavage toute jeune, par un aristocrate français qui était gouverneur du Sénégal à la fin du XVIIIe siècle. Et il en a fait cadeau à sa tante.
Qu'il a oui, parce que maintenant tu peux dire ben, elle est devenue un cadeau, alors oui, sauvée de l'esclavage. Bon, c'est-à-dire, c'est mieux d'être un cadeau que d'être acheté.
Non, justement, il y a un moment, tout d'un coup, elle a été un cadeau, mais elle se dit, est-ce que je n'ai pas été un jouet qu'on a offert à quelqu'un ? C'est tout le problème est là. En fait, le mot cadeau, avec le mot jouet, fonctionne très bien. C'est-à-dire qu'elle se rend compte, elle est élevée comme si elle était la fille de cette femme, de dans la famille de Beauvau. Le plus drôle de l'histoire, c'est qu'en fait, elle a été élevée au ministère de l'Intérieur actuel, puisque c'est l'hôtel de Beauvau, dans cette famille. Et un jour, elle se rend compte que elle a la peau noire, qu'elle est noire, et donc elle ne pourra pas avoir la vie pour laquelle elle a été vraiment élevée et dans laquelle elle brille sur tous les tableaux et pour laquelle elle est très douée. Donc c'est une espèce d'impasse radicale dont elle prend conscience. Voilà.
Ah oui, Elisabeth, toi tu connais très bien la littérature française et l'histoire, etc. Donc finalement, l'hôtel de Beauvau a été bon le lieu où elle a vécu, où elle a grandi, c'est quand même extraordinaire, pas sûr qu'elle se rendait totalement compte de tout ça. Mais alors Ourika est devenue littérature de quelle manière?
Alors c'est une femme de l'aristocratie, toujours, enfin, une amie de Chateaubriand, de Madame de Staël, de Benjamin Constant, qui avait un salon littéraire, qui était très brillante et qui a eu beaucoup de difficultés relationnelles dans sa vie, en particulier avec Chateaubriand, qu'elle aimait en secret. Et à un moment, elle s'est retirée dans sa province et elle a décidé d'écrire. Et la première idée qu'elle a eue pour écrire, c'est raconter l'histoire d'Ourika, dont elle avait entendu parler et dont on suppose, j'en suis pas sûre, mais je crois qu'elle l'avait peut-être qu'elle l'avait rencontrée, parce qu'Ourika est morte très jeune, elle est morte à 16 ans. Donc.
Alors, pour préciser un petit peu, est-ce que quand Madame de Duras a écrit le roman, est-ce que Ourika était encore vivante ou est-ce qu'elle était morte ?
Non, non, elle était morte. Elle l'a écrit peut-être 25 ans plus tard. C'est-à-dire qu'Ourika est morte pendant la fin de la Révolution, vers la fin de la Révolution, enfin avant la prise de pouvoir par Bonaparte, en fait, à cette époque-là. Et elle a écrit, elle, dans les années 1820. Et elle l'a publié, elle l'a fait lire en 1823 à tous ses amis qui lui ont dit « Mais c'est une merveille, ce roman, il faut absolument le publier. » Donc la première édition est 1824.
Est-ce qu'on sait quelque chose de par quel biais l'autrice a eu connaissance de cette histoire ?
Par amitié. En fait, elle connaissait la famille de Beauvau dans laquelle Ourika avait été élevée. C'est une histoire qui se racontait et qui avait beaucoup frappé toute la société de l'époque. Mais surtout, c'est l'œuvre de Claire de Duras qui a rendu Ourika célèbre. Et c'est devenu vraiment une célébrité.
Alain, je sens que tu as quelque chose à nous dire.
On va peut-être rebondir sur deux ou trois points là. Alors c'est vrai que c'était une époque un tout petit peu particulière parce que on ramenait un noir, une noire d'Afrique comme on ramène un bibelot des vacances. Alors, il faut préciser que l'aristocrate en question, il avait quand même une dimension un peu humaniste.
Oui.
Hein? Alors ça, c'était quelque chose d'un peu particulier, ce qui n'existait pas dans tous les cas. Maintenant, par rapport à l'hôtel de Beauvau, alors il se trouve qu'on a été voir à l'hôtel de Beauvau. Alors il ne faut pas oublier que l'hôtel de Beauvau, aujourd'hui, c'est le ministère de l'Intérieur. Alors, on a failli retrouver quelques traces d'Ourika, très peu. En même temps, l'hôtel de Beauvau, on s'est aperçu que c'était plus un lieu de police qu'un lieu de littérature. Hein. Et quand même, en grimpant dans les étages, on s'aperçoit que les couloirs, ça ouvre quand même pas à la littérature. Hein. Donc... C'est vrai qu'on pensait, parce que le préfet de police de l'époque, il avait quitté Beauvau, celui qu'on pensait trouver, c'était M. Collomb, qui lui était, je crois, agrégé de littérature.
De lettres,
oui. Agrégé de lettres. Mais à l'époque, il n'était plus là. Et donc, la seule chose qu'on a vue à Beauvau, ce n'est pas Ourika, mais c'est un poulailler qui était au fond du jardin. Voilà. Et il semblait que tous les matins, les œufs de ce poulailler étaient déplacés et transportés vers l'Élysée. Voilà, ce sont les œufs du président. Voilà, Ourika nous a conduits aux œufs du président.
Alors, Marie Platon.
J'ai été à l'hôtel de Beauvau et il y a quand même... une antichambre et le salon qui est le bureau du ministre de l'Intérieur. Et dans l'antichambre, dans cette petit boudoir, il y a quand même une plaque où on parle d'Ourika. Donc elle est quand même citée, elle est quand même voilà. Et quand moi je suis rentrée dans le bureau donc du ministre, il y avait cette grande fenêtre qui donnait sur le jardin, et j'ai pu imaginer à un moment donné où pouvait se trouver ce fameux paravent derrière lequel Ourika a entendu une conversation où elle a appris en fait là dans cette conversation qu'elle était noire, quoi. Et c'était très émouvant, vraiment quand même très émouvant, voilà. Ça, c'est...
Ah oui, parce que cette histoire, c'est une tragédie,
oui.
Hein, c'est une tragédie, et ça commence par le fait qu'elle entend une conversation personnelle par coïncidence, et ça déclenche tout, n'est-ce pas?
Oui, elle est heureuse jusque-là, elle est heureuse, elle vit aimée, même adorée, adulée par Madame de Beauvau, qui la considère comme sa fille, qui l'élève en tout cas comme sa propre fille. Et puis un jour, elle est derrière un paravent, elle est en train de dessiner, et puis elle entend, on annonce une amie de Madame de Beauvau qui vient voir Madame de Beauvau, et elle entend cette conversation. Une conversation entre elles deux, entre la marquise d'Eux et Madame de B, Madame de Beauvau, et la marquise d'Eux faisant comprendre à Madame de Beauvau qu'elle fait peut-être une erreur en élevant cette petite noire comme sa propre fille, en lui donnant cette éducation parfaite alors qu'elle est noire et qu'elle n'a aucun avenir. Donc, on ne pourra pas la marier parce qu'en plus elle bénéficie d'une éducation qui fait que... vraiment personne ne voudra d'elle et qu'elle sera très malheureuse, et elle comprend que donc sa vie va être très difficile, quoi, à ce moment-là.
Ah oui, dans cette société-là, elle est dans l'impasse.
Ouais. Elle n'a pas conscience d'être noire. Elle a conscience d'être noire à partir de l'épreuve du paravent.
Oui,
ça, c'est une épreuve fondamentale.
Et justement, ça, c'est cette épreuve, bon, c'est la part romanesque. Évidemment, on ne sait pas comment ça s'est passé pour la véritable Ourika. Probablement, elle a pris conscience petit à petit. Mais c'est vrai que tous les témoignages qu'on peut entendre, même aujourd'hui, il y a énormément d'artistes, etc., de gens qui disent j'ai compris que j'étais noire le jour où j'étais à l'école, le jour où j'étais... C'est-à-dire, c'est toujours quelque chose d'extérieur qui, tout d'un coup, fait prendre conscience de la différence. Et la différence qui sépare.
C'est l'épreuve. Là, je lisais dans la presse ces jours-ci qu'il y a une recrudescence sans pareil, oui, d'événements et de situations racistes. Oui. Hein? Alors, il y a le racisme au quotidien, banal. Et puis, il y a les événements plus tragiques, à savoir le gars, la fille qui cherche du boulot, qui tout d'un coup s'aperçoit qu'il est noir, il est refusé. La personne qui cherche un appart, et on n'en veut pas, etc., etc. Et en ce moment, il y a vraiment une recrudescence de toutes les formes de racisme, que ce soit contre les Noirs, contre les Juifs, contre toute forme de différence, les handicapés, etc. C'est...
Oui, oui, c'est... Alors justement, c'est assez révoltant. Oui.
Et ce qui est particulièrement intéressant, c'est de voir, quand on lit le texte de Claire de Duras, qui est quand même un texte d'une époque romantique, c'est, elle a eu une lucidité, c'est-à-dire qu'elle en parle comme on en parlerait aujourd'hui. Et pas du tout comme la littérature romantique a pu développer toutes les descriptions et de des Noirs ou des personnages différents, etc. Quand on lit Victor Hugo, on se dit, mais c'est pas possible, quoi. Or, Madame de Duras, elle, a eu une conscience de ce que ça pouvait représenter, probablement parce qu'elle s'est projetée dans le personnage à cause de ce qu'elle avait souffert elle-même de sa propre différence, de sa difficulté à s'intégrer dans la société dans laquelle elle avait soi-disant triomphé.
Et donc l'écriture de ce roman, c'est une histoire où on trouve ce qu'on appelle une première fois, oui. En quelque sorte, oui, hein, oui. À plusieurs niveaux. Donc apparemment, c'est la première fois qu'elle a écrit un roman, oui. En parlant de Claire de Duras. Oui. Et puis, c'est la première fois que... qu'on donne un premier rôle, un personnage principal qui est quelqu'un de noir, dans la littérature française, c'est ça.
La première fois qu'elle entre dans une conscience noire, enfin que quelqu'un, qu'un écrivain occidental entre dans une conscience noire, et elle le fait avec une lucidité, une clairvoyance qui fait que quand on entend ça aujourd'hui, on peut l'écrire aujourd'hui. Enfin, il y a une subtilité, il y a une complexité dans son analyse. Et dans les analyses d'Ourika, parce qu'en fait, c'est un roman dans lequel elle analyse sa propre situation au fur et à mesure qu'elle la découvre. Et cette analyse est absolument universelle. Enfin, toute différence peut s'exprimer à travers Ourika. Et c'est pour ça que c'était si intéressant d'être porté au théâtre, parce que tout le monde peut s'y reconnaître d'une certaine façon. Et c'est pour ça aussi que moi, je tenais beaucoup à ce que ce soit Marie qu'il joue en tant que comédienne métisse. Bon, parce qu'elle a sa propre spécificité. Mais ça aurait pu être, je ne sais pas... je pense que tout le monde peut retrouver quelque chose de soi.
Bien sûr, parce que cette histoire d'exclusion, de non-porosité sociale, etc., de la société, c'est une histoire qui frappe tout le monde, qui est différent, qui est une minorité. Elle vient d'Afrique en raison de l'époque à laquelle ça se passe, etc. Mais l'histoire, si ça pourrait se passer ailleurs, à un autre moment, ça pourrait être une arabe, une chinoise. Bon.
Tout à fait. Une femme aussi.
Elisabeth, excusez-moi, d'ailleurs, c'était le handicap, ça m'a un peu troublé. Oui. Mais je voudrais revenir sur ce que dit Elisabeth sur une notion très importante, c'est la notion d'analyse. Parce qu'en même temps, dans ce texte, on entend bien que le médecin arrive près d'une religieuse noire qui va avoir plusieurs rencontres avec elle, qu'il est toujours présent jusqu'au décès de cette religieuse noire. Et on peut penser que c'est aussi les premiers pas de la psychanalyse qui arrive à travers la littérature.
Oui. Pourquoi ?
Pourquoi ? Parce que là, on a affaire à une femme qui est tout à fait révolutionnaire dans sa façon de penser, sa façon de voir, même si on peut penser qu'à un moment, c'est la dépression quelque part qui la guide. Hein, on peut penser que le texte, toute cette histoire, elle est aussi générée par la dépression, mais la mise en forme de ce médecin qui est présent à l'entrée du texte, présent à la sortie, et qui est présent à différentes occasions près de la religieuse, fait penser à une scène d'analyse habituelle de nos jours.
Alors oui, parce qu'on n'a pas encore expliqué la démarche, disons, dramaturgique, la construction du roman.
parle, son autrice.
Ouais. Oui, mais ça, c'est une c'est très traditionnel à l'époque. C'est très souvent, dans les romans de Benjamin Constant, c'est pareil. C'est toujours quelqu'un qui a été témoin, qui a rencontré quelqu'un, qui a raconté ses malheurs. Et le témoin transmet l'histoire. Et là, c'est le médecin qui introduit, qui sert de cadre, en fait, de cadre fictionnel à l'histoire. Voilà. Donc, la religieuse se confie au médecin. Mais simplement, elle lui dit, quand je vous en aurai dit assez, peut-être vous saurez me guérir quand j'aurai dit tout ce que j'ai à dire. Et c'est pour introduire un autre thème qui me paraît très important, qui est celui du secret. Parce qu'il y a vraiment un secret. Et le secret, on ne sait, il est très présent dans le personnage d'Ourika. Et probablement, il y avait aussi un secret dans la vie de Claire de Duras. Et le secret est peut-être aussi celui de la naissance d'Ourika. Parce qu'après tout, on ne sait pas. Parce que on parle d'Ourika, Claire de Duras parle de sa mère, on parle des femmes, on est entre femmes, mais le père dans l'histoire, on ne sait pas où il est, ni qui il est, ni où il a disparu. Donc il y a un secret, et l'homme en question, c'est celui avec lequel Ourika a été élevé. Et c'est aussi un secret pour elle qui va lui être révélé, enfin, qui va affleurer. Oh, c'était le second pic, disons, le second moment fort de l'histoire, le moment dramatique de l'histoire, quand elle réalise vraiment qu'est-ce qui la relie à ce presque, j'allais dire demi-frère, c'est pas son demi-frère, mais à ce garçon avec lequel elle a été élevée. Voilà.
Oui, dont elle tombe amoureuse. Oui, oui. Mais Alain, toi, tu parles d'Annalise, c'est parce que bon, elle est au moment où le médecin raconte cette histoire, ben il la rencontre, elle se réfugie dans un couvent dans la religion, et elle a un regard quand même, une distance par rapport à ce qui lui est arrivé. Donc déjà, elle raconte son histoire à ce médecin, et donc elle a cette distance, ce recul.
Elle raconte l'histoire parce qu'elle finit par avoir confiance dans ce médecin. Elle le dit d'ailleurs. Au début, elle ne parle pas tout de suite. Il lui faut quelques séances. Hein, j'utilise le mot séance presque pour se mettre à table, pour commencer à discuter. Et c'est vrai que... Alors, l'histoire de la psychanalyse, de l'analyse, là, c'est un regard personnel que j'ai sur le texte. Hein, c'est peut-être un peu amplifié. N'empêche que c'est quelque chose qu'on peut retrouver dans cette histoire. Par contre, aujourd'hui, on peut quand même penser, parce que l'année prochaine, on va fêter les 200 ans de l'histoire d'Ourika.
Oui, de l'écriture, parution du roman.
Du roman. Hein, on peut penser que 200 ans plus tard, ben, il n'y a pas grand-chose qui a changé. Hein. C'est vrai qu'on ne va plus les chercher en Afrique, mais ils viennent tout seuls. Par contre, ils ne sont pas mieux acceptés. Et tout ce que je disais tout à l'heure, toute forme de différence aujourd'hui est systématiquement refusée.
Oui, c'est toujours stigmatisant. On va faire une deuxième partie dans l'émission, là, autour de l'anti-tsiganisme. Voilà. Maintenant, il y a ce procédé d'écriture auquel, en quelque sorte, Elisabeth, vous superposez encore un procédé théâtral.
Oui.
Ouais. Pour nous ramener du monde d'aujourd'hui, petit à petit, à travers Marie Plateau, dans l'histoire, dans l'univers d'Ourika.
Oui, oui, l'idée étant de... En fait, l'objet du spectacle est une comédienne d'aujourd'hui, Marie, qui revisite, qui fait on employait le mot « traverser », qui traverse... Ce roman, cette histoire, on peut imaginer qu'elle vient en scène pour répéter, revoir le texte, et puis petit à petit, elle est le lire. Ça, enfin, on, toutes les interprétations sont possibles.
Ou bien elle est simplement une actrice passionnée par cette histoire et finit petit à petit à s'identifier.
C'est ça, voilà. Et petit à petit, le personnage prend forme et naît et se développe jusqu'à la fin. Et prend le pouvoir. En fait, c'est comme si le personnage prenait le pouvoir sur scène. Progressivement, mais on voit vraiment la comédienne d'aujourd'hui qui est là, qui travaille, et puis on voit aussi par moments affleurer la femme de lettres du 19e siècle, qui avec ses feuilles, qui réfléchit, et puis pourquoi pas la metteuse en scène qui a pensé à tout ça et qui à travers les cheminements peut aussi marquer son influence. Et puis la comédienne.
Comédienne qui se retrouve dans le personnage, bien entendu. Voilà. La comédienne qui se retrouve dans le personnage.
La femme d'aujourd'hui, l'écrivain, oui. Jusqu'à être aussi l'aristocrate en question.
C'est comme si on faisait aussi, c'est comme une réflexion aussi sur ce qu'est le processus de la lecture, en fait. Oui. C'est-à-dire quand on lit, eh bien, d'abord, on découvre un texte, une écriture, on a un petit peu de mal, on joue avec, on rentre dedans. Progressivement, on s'identifie au personnage, et puis on a des moments où on pense à l'auteur, et on se dit pourquoi est-ce que l'auteur s'est identifié à ce personnage, et on est davantage plus sur l'écriture et sur les envies de cet auteur de partager cette histoire. Et puis tout d'un coup, on lit, et puis on s'arrête, et puis on se dit tiens, mais ça c'est mon histoire qui est en train d'être racontée, et puis donc tout d'un coup, c'est nous qui devenons acteurs, et puis de temps en temps, on compatit avec le personnage et on devient à ce moment-là frère ou sœur du personnage. Et puis tout d'un coup, et c'est tout ça qu'on a essayé avec Elisabeth. C'est vraiment un travail qu'on a fait toutes les deux main dans la main depuis quelques années. Une réflexion qu'on a menée ensemble, c'était de retrouver aussi dans ce travail cette solidarité qu'il y avait pu y avoir entre Claire de Duras et Eureka, qui s'est intéressée à ce personnage, et entre une metteur en scène blanche d'aujourd'hui. Avec une actrice de couleur, par exemple. Oui. Et effectivement, c'est ce même rapport qu'on a essayé de retrouver dans le travail que Claire de Duras a eu à travers l'écriture avec le personnage vivant d'Eureka. Moi, je me suis beaucoup retrouvée dans ce personnage, beaucoup, beaucoup. C'est tout ce qu'elle dit, tout ce que Claire de Duras raconte et tout ce que Elisabeth m'a raconté de sa propre histoire à elle aussi et de son... C'est vrai.
De ma propre différence.
De ma propre différence. Fait que, comment dire, moi, j'aurais pu aujourd'hui si écrire exactement les mêmes choses. Exactement les mêmes choses. Il y a même au niveau du travail qu'on a fait dans les... Parce qu'il a bien fallu effectivement qu'on adapte plus ou moins ce texte et on ne pouvait pas le jouer dans son intégralité. Donc on a fait des coupures, on a essayé. Mais ce qu'il en reste, eh bien je pourrais le dire exactement de la même façon. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'une écriture presque d'une modernité absolument... un texte écrit aujourd'hui. Et avec exactement la même... la même teneur, quoi, la même.
Oui, alors que c'est une écriture extrêmement raffinée, voilà. Presque racinienne, j'allais dire.
On a fait un énorme travail, précisément, pour ramener au siècle d'aujourd'hui.
Et tous les mots qui sont dits sont les mots de Claire de Duras. On n'a fait aucune transformation de texte. On a juste fait des coupures.
Et la cerise sur le gâteau, c'est quand même que tout ça se passe à l'heure de la Révolution française, qui devait quand même changer l'histoire. Et ben, si toute cette histoire avait commencé peut-être une dizaine d'années plus tard, peut-être que l'histoire se serait déroulée un petit peu différemment. Mais en tout cas, ça tombe quand même à un moment de l'histoire où toutes ces impasses-là sont censées s'ouvrir un peu, où il y avait aussi des soulèvements dans les îles, etc., où on commençait à mettre en cause toutes ces histoires d'esclavage. Et on a des récits, un arrière-plan très présent quand même dans le roman.
Oui, très présent, et je pense que c'est toute une génération alors qui a été beaucoup plus marquée, enfin, de mon point de vue, beaucoup plus marquée par la Révolution et par la Terreur qu'on l'imagine maintenant. C'est-à-dire que c'est des gens qui ont tous vu, ils ont tous eu des amis, de la famille, des parents, des grands-parents qui ont été guillotinés quand même. Parce que, évidemment, ça se passe dans un milieu aristocratique. Donc c'est des gens, ils ont connu des gens qui se cachaient, qui s'enfuyaient, et c'est vrai que ça les a profondément marqués. Et en même temps, ils étaient tous ils avaient tous un idéal des Lumières. C'est-à-dire ils voulaient tous transformer la société, et ils se sont heurtés à cette espèce de période de violence extrême. Donc ils étaient vraiment très 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 déchirés par ça. Et c'est une génération pour moi. Et c'est peut-être ça, j'ai beaucoup réfléchi là-dessus, mais je me demande si c'est pas ça qui leur a donné cette lucidité qui fait que maintenant, quand on les lit, quand on voit les questions qui se posent, on se dit, mais ça nous parle, quoi, vraiment.
Alors, en tout cas, c'est une très poignante rencontre avec l'histoire, avec notre monde aussi, à travers Marie Plateau, à travers son interprétation, à travers votre travail, qui met tout ça en perspective par rapport à ce que nous vivons aujourd'hui. Et ça se passe au théâtre Darius Milhaud. Et puis, l'année prochaine, alors 2024, c'est donc les 200 ans de l'apparition... Oui, l'année prochaine, 24.
Non, c'est cette année.
C'est maintenant.
Oui. Ça s'est fait en deux temps. Elle a écrit le texte en 2023.
Si, elle l'a lu assez
à son.
Il était édité
en fin 2023.
Elle a fait une première édition en 2023.
Et c'est tous ses amis qui lui ont dit il faut absolument le rééditer. Voilà. Et en 24.
Et la première édition a eu lieu en 2023.
Oui, la toute première.
Et donc cette année, on va fêter les 200 ans de l'édition
de 2023.
L'édition originale. Ouais. Et donc, et d'ailleurs, effectivement, c'est vers la mi-mars, je crois, que Gallimard va donc rééditer
en folio
pour les 200 ans donc de l'édition d'Ourika, toute l'œuvre de Claire de Duras. Oui. Voilà. Et nous jouons Ourika jusqu'au 25 avril au théâtre Darius Milhaud tous les mardis soirs à 19h.
Précise.
Et nous aurons donc le plaisir aussi de faire découvrir au mois de mars cette nouvelle édition, puisque nous aurons
J'espère que les éditions Gallimard vont venir fêter ça avec vous.
On a bien l'intention. D'aller les rencontrer, oui, ouais. À cette occasion. Oui, tout à fait.
Donc, allez-y déjà, dès que vous pouvez, c'est tous les mardis à 19h. C'est vraiment formidable, seule en scène de Marie Plateau. C'est touchant, c'est poignant, il y a plein d'émotions. Et finalement, c'est vraiment aussi la découverte probable d'un très, très grand texte.
Et ça parle à beaucoup de monde, je pense que ça peut parler à beaucoup de monde. Aux femmes, aux gens de la diversité, les gens de couleur, les gens... Ça parle de l'exclusion, c'est, pour les historiens, c'est aussi, comme disait Elisabeth, l'époque de la Révolution. C'est pour les amoureux de la littérature, c'est découvrir une œuvre rare. C'est vraiment une très très grande œuvre, Ourika de Claire de Duras. Donc découvrir un auteur ou le redécouvrir. Et puis même, effectivement, ce sont les balbutiements de la... C'est une des premières œuvres de psychanalyse. Oui. Donc, moi, j'ai des amis psychanalystes qui sont venus voir et qui ont été absolument sidérés par ce qu'ils ont vu et qui en parlent en ce moment et qui, j'espère, feront venir des collègues parce qu'ils ont très envie de faire venir des collègues. Donc, ça parle vraiment à beaucoup de gens, aux féministes aussi, oui. Parce que vraiment, il y a la cause de la femme au cœur de tout ça. Oui. Toutes les femmes sont concernées. Donc, c'est vraiment un texte, à mon avis, qui peut fédérer beaucoup, beaucoup de gens. Beaucoup de gens.
Et ça a été édité dans les années 70 par les éditions des femmes.
Oui. Mmh. Oui.
Et c'est comme ça, je pense, par ce biais-là, que moi j'ai découvert, je pense, à peu près à cette époque-là.
Et il a obtenu le label, d'ailleurs, label spectacle recommandé par la LICRA.
En tout cas, ce serait très intéressant que ça ne reste pas un texte trop confidentiel, oui. Parce qu'il mérite quand même d'être plus largement connu. La pièce aussi, et Marie, dans l'interprétation qu'elle en fait, mérite aussi que ce soit vu, et puis que ça fasse peut-être un peu progresser les mentalités. Hein, et que, alors ça, c'est moins sûr. Mais peut-être que si on peut se dire à un moment, de toute façon, comme on dit souvent, moi je suis pas raciste, hein, j'ai même un pote noir, hein, n'empêche qu'il y a encore du chemin à faire, quoi.
Voilà, spectacle recommandé par Radio Libertaire. Merci.
Merci
à Radio Libertaire.
Oui. Oui. Tambour, c'est musique, moi viens jouer. Kounye kalaba, moi t'aime pour là. C'est ça, moi qu'a mandé. Mettez pour qu'on y ait tambour, c'est musique, moi, viens jouer. Qu'on y ait là-bas, moi, t'aime pour là. Si ça, moi, qu'à mander.
Alors, c'est Thomas d'Hambourg, Radio Libertaire 89.4, c'est Tempête sur les planches. J'espère que nous étions assez clairs et que tout le monde a bien suivi, bien compris que ce n'est pas Marguerite Duras, mais Claire de Duras, et que c'est une différence quand même d'un siècle et plus que ça. Voilà, alors là, nous étions en 1823 avec Ourika. Et si vous voulez voir Ourika en 2023, mais il faut aller au théâtre Darius Milhaud. Vous savez, c'est pas un grand théâtre, il est pas très connu. Je conçois très bien que vous ne sachiez pas où ça se trouve. Alors, c'est tout de même dans le 19e arrondissement de Paris. C'est pas loin de la Villette. Et il faut faire un peu comme si on allait à la grande halle de la Villette ou des choses comme ça. Sauf qu'on reste de l'autre côté de l'avenue. Et on va sur la droite, on monte une rue qui s'appelle la Sente des Dorés, et puis commence l'avenue Darius Milhaud avec ses lampadaires inclinés. Et juste au début de cette avenue-là, vous avez le théâtre Darius Milhaud. Et Ourika, donc, comme je disais au début, est à l'affiche tous les mardis à 19h. Mais il y a un plus, et ça, je vous avais dit aussi, pourquoi est-ce que nous étions sur un enregistrement et pas en direct? C'est parce que l'équipe du spectacle est en ce moment dans un autre événement, ça s'appelle Café Bavard, c'est animé par quelqu'un qu'on aime bien aussi, c'est Moussa Lepkiri, auteur, dramaturge, homme de théâtre et de lettres, qui anime ça au Café de Paris de temps en temps, et aujourd'hui jusqu'à 17h avec différentes interventions, dont l'équipe d'Ourika. Et l'adresse est le 158 rue Oberkampf, c'est dans le 11e arrondissement, c'est tout en haut de la rue Oberkampf, Café de Paris, et cette série d'événements autour de du spectacle, de la poésie, de la musique, etc. Ça s'appelle Café Bavard et c'est présenté par Moussa Lepkiri. Et c'est aujourd'hui jusqu'à 17h, donc au 158 rue Oberkampf, Café de Paris.
Radio Libertaire 89.4,
la radio de la Fédération Anarchiste, la voix sans Dieu ni maître.
Pour nous soutenir financièrement, on a toujours besoin de vous pour continuer d'émettre. Et renouveler le matos, par exemple.
Vous pouvez télécharger un bon de souscription pour soutenir votre radio sur le site de la Fédération Anarchiste.
Et qui est bien sûr modulable selon vos moyens.
Ta radio, tu l'aimes?
Alors tu la soutiens.
Pour télécharger votre bon de souscription à Radio Libertaire, rendez-vous sur le site www.radio-libertaire.net.
Oh bon, on est là, Tempête sur les planches, c'est Thomas de Hambourg. Et aujourd'hui, avec maintenant une deuxième partie, avec un événement qui va se présenter, on va tout savoir, on va tout apprendre par Zaza Mercury et Linda Freeman. Il se passe quelque chose, elles vont nous dire ce qui se passe, où ça se passe, quand ça se passe, pourquoi ça se passe. Et en quelque sorte, c'est lié à la situation de du peuple rom, sa situation aujourd'hui en France, autour de quelque chose aussi qu'on nomme anti-tziganisme, et c'est lié à la Villa Médici. Et ben, peut-être, Linda, ce serait pas mal de nous introduire dans la question en nous présentant la Villa Medici.
Bonjour, donc, merci de nous donner cette occasion de présenter la villa, de présenter le projet de la compagnie Les Allumeurs, qui s'appelle Ducreben. Donc la Villa Medici, déjà, ça se situe à Aubervilliers, au 77 rue des Cités. Donc brièvement, c'est Jean et Babette Martin qui en 2001 découvrent cette friche et l'investissent avec une quinzaine d'artistes réunis autour de la compagnie Les Grandes Personnes. C'est une compagnie qui manie des marionnettes géantes. Ils se constituent en association loi 1901 et signent un bail commercial qui est conclu en 2003 avec les propriétaires privés et qui maintenant nous accompagne depuis 20 ans. Donc dès ses débuts, la villa est pensée comme un lieu de création et d'expérimentation pour le spectacle vivant transdisciplinaire. C'est un outil pérenne de production, de répétition, de stockage ou de construction afin de créer une œuvre dans son entièreté. La villa, si on peut la définir, c'est une friche culturelle de proximité que l'on peut aussi définir comme un lieu de fabrique, d'expérimentation, de mutualisation d'expériences, d'ouverture culturelle et de lien social. Et ça, c'est un vrai enjeu pour les résidents de la villa. Et voilà, on n'est pas un lieu avec une buvette, une restauration. On est d'abord un lieu de création, un lieu de travail avec des événements quand même. Donc aujourd'hui, il y a une cinquantaine de structures qui constituent le collectif qu'on appelle donc les résidents permanents. Et donc, rapidement, le modèle de gouvernance, c'est donc ce collectif qui est seul décisionnaire de la direction du projet et qui est soutenu par une équipe de salariés dont je fais partie. Il y a aussi Léa en chargée de com et de médiation, Neuya à la régie et El Hassan et Sukuna à l'accueil et à l'entretien du bâtiment. Et donc ce collectif a quand même un conseil d'administration qui est juridiquement le véritable responsable et le véritable employeur. Mais c'est comme je le disais, le collectif qui régit un peu toute la vie de la villa et qui s'auto-organise en se réunissant une fois par mois en assemblée. Donc ça aussi, c'est une vraie implication de chacun. Quand on vient à la villa, c'est pas juste avoir un atelier ou un bureau, c'est vraiment s'impliquer dans un projet global, un projet politique et un projet militant. Et donc ça demande du temps et de l'énergie. Donc voilà, une fois par mois, on se réunit, au moins une matinée, voire plus. Et on se réunit aussi, on fait des états généraux. Donc c'est une journée ou à deux journées consécutives par an. Et donc ces états généraux nous permettent de réfléchir collectivement au modèle villa et de poser les fondements du projet annuel à venir. Et donc cette année, c'est l'année des 20 ans, mais c'est aussi... parce que notre bail s'achève en 2027 et donc on commence à se mettre en ordre de marche pour savoir ce qui va en être à la fin du bail et déjà pour comprendre un peu ce que les résidents veulent faire de ce lieu, comment ils l'imaginent, comment ils le voient. Et du coup, donc cette année, les états généraux sont entièrement dédiés à cette question, à la question de l'avenir de la villa. Et je pense qu'on va y passer plus que deux journées.
Alors, ces résidents, combien de temps est-ce qu'ils sont résidents à la Villa Medici?
Ils sont résidents de façon permanente. Voilà. Ils partent quand ils veulent.
Alors, le nom, c'est bien sûr, c'est une allusion à cette villa très institutionnelle, la Villa Médicis, où il y a c'est très institutionnel avec des résidences, artistes, par le ministère et tout ça, donc c'est une contre-villa.
C'est ça, c'est une contre-villa. Je pense que le nom, c'était Jean qui l'avait trouvé, c'est
ça. C'est une boutade, oui. Voilà. C'est même une anti-villa, je dirais.
Voilà, une anti-villa,
ouais. Ou à la fois, quand même, c'est effectivement un laboratoire d'expérimentation artistique où on peut faire des choses, mais les rater à l'infini aussi. Voilà. Et un laboratoire politique aussi de démocratie, en fait.
Alors, tu peux nous dire une ou deux choses là, qu'on a pu y voir ou faire dernièrement ?
Alors, dernièrement, tout dernièrement, en janvier, on a lancé l'année des 20 ans, le 28 janvier. Et on a aussi fêté les 20 ans de Frishti Concept, qui est une compagnie de danse en espace public. Et donc, c'était l'événement qui s'appelait Tant, parce que le thème de ces 20 ans, c'est le temps. Et où on a invité les gens à venir performer de toutes les manières possibles et inimaginables. Donc on s'est un peu pris la tête quand même, parce qu'on a rédigé tout un protocole de performance assez poussé. Et voilà, on a mis à disposition plein d'accessoires, des jeux, de la peinture, des déguisements. Et les gens ont vraiment joué le jeu, si je puis dire. Ils sont allés à fond dans l'art de performer. Il n'y avait aucun enjeu, il n'y avait pas d'attente de résultat. C'est vraiment le principe de s'amuser, de se retrouver autour du jeu et de la perf.
Ok, maintenant on va venir à la raison pour laquelle vous êtes ici toutes les deux. Zaza, parle-nous un peu de ce projet.
Alors, nous, donc, on est les allumeurs. Allumeureux, c'est inclusif, et on fait partie justement des résidents permanents de la villa. On y est depuis 15 ans, et voilà, on est plutôt des artistes chercheurs et chercheuses transdisciplinaires, en menant ce qu'on appelle de la recherche-création à la frontière des sciences sociales, de la politique, de l'artistique, bien évidemment, avec une démarche d'analyse, d'engagement de terrain. On a vraiment une dimension un peu militante. Donc voilà, on est terrain, on est tout terrain même, j'ai envie de dire. Et dans le cadre donc de ce gros projet des allumeurs, où on travaille avec toutes sortes de gens plutôt en situation de grande précarité ou de relégation, on a mené de 2018 à 2020 un projet avec des familles roms qui vivaient sur ce qu'on appelle dans le jargon administratif un terrain stabilisé. Et donc on a fait sur le terrain avec les premiers intéressés, on a mené cette espèce de recherche-création et le 11 mars on restitue l'entièreté de ce travail. Alors on avait présenté tout au long de ce travail tous les ans, et notamment sur le terrain Voltaire, des étapes de travail. Mais là, deux ans après la fin de ce projet, puisque ça s'est terminé, le terrain a été rasé le 17 octobre 2020, deux ans après, on présente un dispositif multimédia, on va dire, beaucoup plus complet, parce que y figure notamment ce qu'on n'avait jamais montré, c'est tout ce qu'on a pu tourner pendant ces trois ans, qui restitue de manière différente de ce qu'on avait fait auparavant, des traces en tout cas de ce projet. Bien sûr, c'est pas exhaustif, et puis dans un projet qui reste un projet humain, il y a plein de choses qui sont indicibles, en fait, qu'on peut pas... Mais voilà, on va essayer de partager ça lors de cette journée du 11 mars à la Villa Medici, avec d'autres que les premiers intéressés. Cette exposition, ensuite, au-delà de la journée du 11 mars, où il y a aussi des débats, des rencontres, des ateliers, une part festive avec des concerts, etc. L'exposition sera visible encore quelques jours. Il y aura une médiation auprès des scolaires, et on accueillera une dizaine de classes de primaire et de collège d'Aubervilliers.
Je voudrais pas trop divaguer et garder un peu le cap sur ce qui va se passer le 11 mars, mais quand même, je suis curieux. Là, tu as parlé d'un terrain rasé.
Ouais.
C'est quoi cette histoire ?
Alors, c'est quoi cette histoire ? En fait, alors, est-ce que je remonte à Mathusalem ou est-ce que je fais court ? Je sais pas. Moi, j'avais commencé en 2011 un premier travail avec des familles roms sur ce qu'on a, c'était un dispositif d'État à l'époque qui s'appelait les villages d'insertion roms. Bon, après, une grande hésitation quant à ce type de dispositif et d'intervenir dessus, parce que rien que le nom fait flipper, en fait, fait frémir. Et à l'époque, je voulais mener ce travail en réaction aux politiques sécuritaires insupportables de discrimination anti-roms qui étaient de Nicolas Sarkozy. Et ça faisait suite à son tristement célèbre discours de 2010 à Grenoble, qui assumait une politique d'État ultra-xénophobe. Et donc avec une camarade qui travaillait avec les allumeurs, qui était elle-même plasticienne paysagiste, ben on se demandait ce qu'on pouvait faire, comment on pouvait aborder cette question. Et il nous semblait qu'on connaissait pas du tout ces populations, que c'était une problématique, et donc on a commencé un premier travail sur ce village d'insertion où en fait il faut bien le dire qu'on a été confronté à nos propres stéréotypes, même s'ils étaient bon positifs, je sais pas si on peut parler de stéréotypes positifs, ça reste des stéréotypes, mais en tout cas toute une mythologie identitaire autour des Roms, voilà, qu'on a lors de ce premier projet à vrai dire essayer de déconstruire nous la perception qu'on pouvait avoir de certaines réalités. Et à la fin de ce premier travail de 2011, moi il me semblait qu'on était complètement passé à côté du truc. En fait, ce qui était intéressant, c'était la vie des familles, alors qu'on avait essayé de faire un projet beaucoup plus général sur la mémoire des familles roms en Seine-Saint-Denis. Et en fait, ça avait pas de sens. On aurait dû questionner ce type de dispositif là, ce village d'insertion, le sort réservé à ces personnes. Bon. Bref, et du coup, 10 ans plus tard, enfin même plus que 10 ans, 12 ans, ouais, 10 ans plus tard, en fait, les politiques, la romophobie, en fait, a perduré. Les politiques romophobes, quels que soient les gouvernements, ont continué, que ce soit des gouvernements de droite ou des gouvernements socialistes. Enfin, on se rappelle peut-être certains d'entre vous des diatribes d'Emmanuel Valls sur cette question. Et du coup, on voulait reprendre ce travail, mais sous un angle plus politique, et s'éloigner de l'idée d'une communauté fondée sur une culture ou sur des cultures avec une origine présumée, mais plutôt axer notre recherche sur une minorité qui était caractérisée par la discrimination qu'elle subissait en permanence et depuis très longtemps, à vrai dire, hein, sur notre territoire. Et donc je me suis adressée à Semir Millet, qui est juriste et cofondateur de la grosse association de défense des droits des Roms, qui est la Voix des Roms, voilà, pour savoir s'il pouvait nous tuyauter sur un endroit où on pourrait mener à poursuivre ce travail. Et donc, il m'a parlé de ce dispositif qui était mis en place à Saint-Denis, et qui était le terrain Voltaire, où vivaient des familles roms, mais dans un contexte un peu particulier, qui était une maîtrise d'œuvres urbaines et sociales. Mmh. Voilà.
Mmh. Bon, et comme ça, tu m'as parlé de ça, tu m'as envoyé quelques infos, et comme ça, j'ai découvert qu'il existe quelque chose qui s'appellerait l'antiziganisme. Et je me suis dit, bon, il y a toujours des gens qui sont xénophobes, qui sont racistes, qui sont fachos, etc. Mais qu'est-ce que c'est que l'antiziganisme ? Est-ce que c'est quelque chose qui est à ce point, disons, répandu ou organisé, je ne sais pas quoi, que ça mérite un isme ?
Alors,
sous quelle forme est-ce que ça existe ? Antiziganisme ?
Alors, bah, je ne sais pas moi si je suis complètement légitime pour parler de l'anti-tziganisme. Il y a des gens qui, dont c'est vraiment le sujet d'étude.
Oui, non, il n'y a pas,
voilà.
Pas nécessaire d'être
mais à la fois, on a pu le voir en œuvre, que ce soit sur le terrain, mais je ne sais pas, dans les médias, dans les médias mainstream en tout cas. Et je pense qu'effectivement, l'histoire des tziganes et des roms, elle se confond avec l'anti-tziganisme. Peut-être que je peux... Alors, Semir Millet est un spécialiste de la question dont je viens de parler. Et je peux peut-être vous dire vous partager des choses qu'il aurait pu penser ou dire sur cette question-là, notamment dans un ouvrage qui s'appelle « L'anti-tziganisme, une tradition française », qui est sorti en 2020. Alors, je mets des guillemets, je le cite. Hein, il nous dit « Il s'agit du racisme spécifique contre les Roms, les Sintés, les Gitans, les voyageurs et autres personnes qui sont stigmatisées en tant que tziganes ou gens du voyage, entre guillemets, dans l'imaginaire public. L'anti-tziganisme est un phénomène historique, social, juridique et politique ancien, dont l'analyse intéresse évidemment l'antiracisme politique en tant qu'objet de réflexion et motif d'engagement. Entre autres, il est peut-être la forme de racisme ou l'écart d'impact entre la définition d'un groupe par lui-même et celle qu'en fait le monde extérieur est le plus grand. Si les distinctions internes entre groupes romani sont nombreuses, la catégorie mentale, entre guillemets, tzigane, peu importe comment on la nomme selon les lieux et les époques, cristallise de manière particulièrement univoque son extériorité et, partant, son illégitimité à faire partie de nous. Et je poursuis avec ce que précise Rome Europe, qui est donc aussi la grosse organisation, enfin c'était un collectif Rome Europe international qui milite aussi pour le droit des Roms. Rome Europe nous dit « L'anti-tziganisme est souvent utilisé en un sens restreint pour désigner des comportements anti-Roms ou l'expression de stéréotypes négatifs dans la sphère publique ou encore des discours haineux. Cependant, l'anti-tziganisme donne lieu à un spectre bien plus large d'expressions et de pratiques discriminatoires, y compris beaucoup de manifestations implicites ou latentes. L'anti-tziganisme n'est pas seulement lié à ce qui est dit, mais aussi à ce qui est fait et à ce qui n'est pas fait. Pour reconnaître son réel impact, une compréhension plus précise du phénomène est cruciale. » Et moi, il me semble qu'effectivement, il y a une vraie tradition française de l'anti-tziganisme, dans la mesure où on peut parler d'un vrai racisme systémique à l'égard des Roms en France, mais pas qu'en France, hein, et qui s'inscrit dans l'histoire, en fait. Un peu en vrac, si rien que dans l'histoire du XXe siècle, par exemple, on peut rappeler la création en 1912 du carnet anthropométrique pour nomades, qui est obligatoire à partir de 13 ans, pour tous les déplacements qui doivent être déclarés, et ça rendait possible une étroite surveillance de ces populations, et ça a permis, entre guillemets, l'internement de ces populations en camp de travail durant la Seconde Guerre mondiale, puisqu'ils étaient tous fichés. Autre petite... parenthèse, enfin, qui les camps de travail vont être, par exemple, avec les camps de travail des Roms durant la Seconde Guerre mondiale, vont être libérés un an après la fin de la guerre. Je veux dire, c'est bon. Et bon, bref, ce carnet anthropométrique, il va durer jusqu'en 69 et il va pas se transformer ensuite en une carte d'identité normale, mais en titre de circulation qui va perdurer, lui, jusqu'en 2017 avec une catégorie administrative qui va apparaître en 69, qui va être celle de gens du voyage. Et qui est discriminante. La liste est longue. Hein. On pourrait aussi parler des mesures transitoires appliquées en 2007 aux Bulgares et aux Roumains au moment de l'adhésion de l'UE de ces deux pays, dont les Roms de Roumanie et de Bulgarie ont fait les frais. Bon, enfin, je veux dire, il y a.
Oui, tu dis que c'est une tradition française, ouais. Mais ça ne veut pas dire que dans d'autres pays, les Roms vivent bien ou vivent mieux.
Non.
Il y a autant d'hostilité, de racisme, etc. Que ce soit en République tchèque, en Slovaquie, en Russie, etc., etc. Bon, alors, qu'est-ce qui va se passer le 11 mars maintenant ? La grande question.
Linda, alors, ouais, je te passe la main.
Le programme des réjouissances. Donc déjà l'ouverture, donc parce qu'on a deux ouvertures à la villa, il y a le 77 rue des Cités, mais là ça se passera au 19 rue Sadi Carnot. Donc à 14h, on ouvrira l'exposition dont a parlé Zaza. Et ensuite, on commencera par un arpentage. Donc, un arpentage, pour expliquer, c'est une méthode de lecture collective. Et ça permet de dédramatiser un peu la compréhension de textes qui peuvent paraître un peu compliqués. Voilà, et donc ça sera donc c'est des lectures analyses collectives croisées de Rome et Riverain, un ouvrage collectif, et Avava Ovava par la voix des Roms. Donc ça c'est je sais pas exactement à partir de 14h, mais
un petit atelier qui est proposé par Rémi Guérimand.
Voilà. Ensuite, il y a l'atelier de pratique artistique, terrain en fresque. Donc ça, peut-être que tu peux préciser, Zaza. Donc c'est Alice Nicolas, l'intervenante, qui va proposer cet atelier.
Ouais, Alice, c'est une des artistes photographes qui est intervenue très souvent sur le terrain, et qui connaît bien le dossier du Crébène, on va dire.
Voilà. Ensuite, à 16h, il y a la Fine Compagnie. Donc, c'est une compagnie invitée, mais qu'on connaît bien parce que c'est des résidents, c'est une compagnie résidente de la villa et qui va présenter son spectacle Pyrosome. Donc, c'est de la poésie, du théâtre, de la marionnette et de la musique. Donc je vous lis leur présentation. Dans un corps social aussi ankylosé que vivace, nos propres corps cherchent encore leur pouvoir d'action. Et que dire de nos pensées ? Beau programme. À 17h, donc là, ce sera la table ronde qui sera animée par Rémi Guérimand. Et donc voilà, de l'histoire du terrain stabilisé Voltaire à la lutte contre l'anti-tiganisme en passant par les politiques de relogement et l'intervention des artistes dans un tel contexte, cette table ronde se propose d'articuler entre le singulier de l'expérience et des analyses plus générales les différentes thématiques rencontrées durant les 3 années du projet du Crébène. Donc il y aura notamment Samir Millet, dont a parlé Zaza, qui est le cofondateur de La Voix des Roms, Yonut Simeon, ancien habitant du terrain Voltaire, Tommaso Vitale, professeur associé de sociologie à Sciences Po, Anthony Hickney, délégué général de Rome Europe, Zaza Mercury, donc directrice artistique des Allumeurs, et Alice Nicolas, artiste-chercheuse des Allumeurs. Ensuite, à 19h, il y aura un repas proposé par
Narcisa, qui est une des habitantes aussi, ancienne habitante du terrain, parce que tout le monde a été.
Et à 20h30, on aura l'honneur d'écouter le Duc Reben Band, qui est un groupe aussi monté à l'occasion de ce projet
où on a fait sur le terrain pas mal d'expérimentations sonores, de musique improvisée, etc. Et donc, c'est une petite formation avec deux musiciens, des Allumeurs et un habitant qui maintenant travaille souvent avec nous, qui est Yonut qui participe aussi au débat. Et puis il y a le dispositif, donc l'installation qui elle sera visible toute la journée
dès le 11 mars et ensuite à partir du 12 mars en continu jusqu'au 15 mars.
Voilà. Donc ça c'est une longue journée du samedi 11 mars.
C'est ça.
Et après quand on va à la Villa Medici, est-ce qu'on peut y aller comme ça? Est-ce qu'on le salue? J'ai envie de regarder un peu ce qui se passe ici. Comment est-ce qu'on est accueilli si on est curieux, quoi?
Alors, c'est vrai qu'il faut être un peu curieux parce que, pour dire vrai, le grand portail rouge n'est pas ouvert tout le temps. Donc, il faut toquer et toquer un peu fort pour qu'on entende, parce qu'il y a 3000 m² derrière et on n'est pas juste derrière le portail. Mais par contre, oui, effectivement, c'est un lieu ouvert et qui a tout, dès le début, qui a été ouvert sur l'extérieur. C'est un peu l'ADN de ce lieu-là. Enfin, il a été construit, enfin, conçu par des compagnies d'art de rue. Donc, leur, le principe de ces compagnies, c'est de, d'investir la rue, d'aller à la rencontre des gens qui s'y trouvent. Donc oui, c'est un lieu ouvert, c'est un lieu qui on peut toquer et juste venir voir ce qui s'y passe. On peut ne rien faire aussi à la villa. On dit beaucoup que c'est un lieu de travail, de création où on charbonne, mais aussi on peut s'installer et rien faire, boire un café, lire un livre, c'est possible. Et mais voilà, ça, on va être rarement tout seul aussi, donc ça va être compliqué de lire son livre dans la cour.
Oui, ou bien on peut venir voir les allumeurs au travail, ou je sais pas, voilà. Ça. Ouais. Les allumeurs, vous y faites quoi? Raconte un peu votre quotidien à la Villa Médici. Combien de fois, combien de temps est-ce que tu y passes, combien de fois est-ce que tu y vas, qu'est-ce que vous y faites?
Alors nous, on a notre atelier là-bas, donc c'est vrai qu'on y est souvent, presque toute la semaine. On a nos camarades aussi de jeu, donc voilà, ça c'est, enfin c'est plus que des camarades. Pour moi, c'est un peu la famille, donc c'est la colonne vertébrale, la villa. Mais c'est vrai que nous, on intervient très souvent sur le terrain. Alors très souvent sur le territoire en fait, donc enfin beaucoup à Aubervilliers, beaucoup en Île-de-France, un petit peu dans le sud de la France aussi. Donc c'est vrai que souvent quand même on est sur le terrain. Mais si on n'est pas sur le terrain, on est à la villa, soit dans notre petit atelier rikiki derrière nos ordi, etc. Soit le principe de la villa, c'est qu'il y ait des salles communes, en fait des espaces communs qu'on mutualise en bonne intelligence tous ensemble pour travailler de manière un peu plus confortable parfois que nos petits ateliers. Et où on peut mener des espèces de ce qu'on pourrait appeler des résidences de l'intérieur, en fait. Et voilà, donc on est souvent aussi amené, je sais pas, à expérimenter, à réfléchir, à monter dans la villa, à l'extérieur de notre atelier. Voilà.
Oui, et puis tu es beaucoup aussi dans l'auto, enfin tu réfléchis beaucoup à l'organisation de la villa.
Ouais, c'est pour ça que je dis c'est la colonne vertébrale, ouais. Parce que c'est toujours un aller-retour en fait entre des problématiques plus larges qui sont celles de comment on invente, on imagine, on réinvente l'autogestion à la villa. Et ça prend un temps infini, c'est enfin il n'y a jamais aucune réponse, donc je veux dire c'est sans fin. Et c'est vrai que moi personnellement, c'est vrai que je suis très investie sur ces questions-là en fait, qui me semblent en fait alimenter aussi, qu'on réinjecte aussi dans les allumeurs en fait. C'est un tout. Je fais pas trop de distinction entre les, enfin ce qui est de la villa, ce qui est des camarades villageois avec qui on réfléchit, et puis des problématiques qu'on a à la villa. Tout ça, c'est un ensemble, en fait, qui se répond, qui permet de faire des mises en perspective, qui alimente la réflexion.
Mais alors, une fois qu'on sait un petit peu ce qui se passe à la Villa Médici et pourquoi on irait là-bas, il faut encore savoir comment on y irait, à pied, en vélo, en métro, ou bien sur Internet, racontez-nous.
À pied, oui, c'est possible. En métro, on est au milieu entre la station Aubervilliers 4 Chemins et la station Mairie d'Aubervilliers, donc vous avez le choix. Et après, c'est 10 minutes à pied, il me semble.
Ouais, c'est tout.
Voilà. Et sinon, je sais pas, il y a quoi comme.
On peut y aller sur Internet. On a un site quand même qui est hyper bien, ouais, qui documente non seulement l'entité Villa, mais de manière plus singulière, ce qui est propre à chacune des compagnies ou des entités, parce qu'il n'y a pas que des compagnies, il y a des artistes qui travaillent en solo, des artistes plasticiens, artisans aussi. Donc tout ça, c'est relayé dans le site de manière générale, mais ponctuel aussi, avec une newsletter. Avec,
voilà, il y a la newsletter qui est mensuelle. On a tous les réseaux sociaux, Instagram, Facebook. Non, c'est tout, on n'a que ça. On n'a pas tous les réseaux. Ouais. Et c'est suffisant. Et voilà, et donc Léa transmet toutes les infos sur ces trois canaux, le site et nos deux réseaux sociaux, plus la newsletter.
Et puis je crois qu'on fait aussi partie, alors ça tu en parles,
les réseaux, moi,
de réseaux comme le Pot Commun ou des choses comme ça, ou même Réseau Île-de-France.
Voilà. Donc effectivement on fait partie d'un, au bout de 20 ans, il y a plein de liens qui ont été tissés. Donc déjà à l'échelle nationale, je pense à l'UFISC, donc c'est l'Union fédérale d'intervention des structures culturelles, qui représente 2000 organisations professionnelles du secteur artistique et culturel, qui vise à défendre les valeurs et les revendications pour la construction d'un nouvel espace social et économique de l'art et de la culture. Donc, autrement dit, une économie non lucrative de marché. On fait partie de la Fédération nationale des arts de la rue et la Fédération régionale aussi des arts de la rue. On fait également partie de la Coordination nationale des lieux intermédiaires et indépendants, qui, début décembre, a fait son forum annuel, c'était à Tours. La CNILI, c'est très dur à dire. Et qui, donc on s'est tous réunis, tous les lieux dits intermédiaires et indépendants. On tient vraiment à cette appellation plus qu'à celle de tiers-lieu culturel ou...
Qui est plus ambigu.
Voilà, qui est plus ambigu, qui... Voilà,
ça, qui n'a pas forcément la même histoire que la nôtre, qui est plutôt celle l'histoire de l'alternativité.
Voilà. Et donc là, c'était super de se retrouver entre pairs, de confronter nos quotidiens, nos vies, nos problèmes, et de trouver ensemble des solutions. On a pu faire face aussi au ministère de la Culture qui a osé venir, qui n'a pas eu peur de venir. Et donc, c'était de beaux échanges. Ça fait du bien et hâte d'avoir le prochain forum. Dans nos réseaux, à l'échelle régionale, j'aimerais citer Actif, qui est donc le réseau de lieux artistiques et culturels indépendants en Île-de-France, et qui défend la spécificité de nos lieux et œuvre pour le développement et la prise en considération de ceux-ci. Donc Actif est un vrai vrai soutien. Déjà, il y a une démarche chez eux de co-construction des politiques publiques. Donc, ils montent souvent au créneau pour aller faire valoir nos droits. C'est aussi une plateforme d'échange, de savoir et d'idées. Donc, ça, c'est hyper important. Toujours la mutualisation. Voilà, c'est un peu le maître mot chez nous.
Oui, d'une manière micro et macro, en fait. Vraiment, c'est à différentes échelles.
Et du coup, à l'échelle locale, on a Pot Commun. Donc, Pot Commun, c'est un consortium qui s'est créé en 2016 à l'issue d'une étude réalisée par Opal, une association de chercheurs qui travaille beaucoup sur la question de nos lieux. Ils ont voulu étudier 4 lieux de pleine commune, donc à savoir Main-d'œuvre à Saint-Ouen, 6B à Saint-Denis, Les Poussières à Aubervilliers et la Villa aussi à Aubervilliers. Et donc à l'issue de cette étude, ces 4 lieux se sont dit que ça serait bien de continuer à travailler ensemble. Et donc ils ont répondu à un appel à projet, et donc ces 4 lieux ont été labellisés Fabrique de territoire par le ministère de la Cohésion des Territoires. Mais voilà, donc l'objet de ce pot common, donc P-O-T plus loin K-O-2-M-O-N, c'est donc on travaille sur quatre volets, on a quatre volets d'intervention. Donc les visites de lieux de pleine commune, parfois d'ailleurs, on n'est pas sectaire. Et c'est surtout voilà, pour mettre en lumière des lieux qui sont un peu à la peine ou qui sont nouveaux sur le territoire. On propose des formations à destination des résidents des quatre lieux. Donc c'est plutôt à destination des professionnels, mais c'est encore une fois ouvert. Chaque année, il y a une résidence mutualisée entre tous les résidents. Donc ça, c'est génial. L'année dernière, c'était un cadavre exquis qui s'est monté. Voilà. Et une conférence aussi annuelle.
Ouais. Mais je comprends, oui, ce que vous disiez au début. Les projets militants, ça prend beaucoup de temps et beaucoup d'engagement. Ouais. On le voit bien. Donc après, c'était beaucoup d'ailleurs. Alors la villa, mais d'ici. Alors juste pour le redire, vous pouvez encore une fois résumer. Alors le samedi 11, mais c'est juste la veille de la prochaine tempête sur les planches. Donc 12 mars, là, on va probablement vous parler d'une pièce de théâtre, La Retirada, au théâtre de l'Épée de Bois, qui parle des républicains espagnols dans la guerre d'Espagne. Voilà, c'est toujours un bon thème. Et voilà, ça c'est le 12 mars. Et donc le 11, samedi 11, ça commence à quelle heure? Avec bon là. On a bien vu, il y a beaucoup de discussions, d'ateliers, concerts, repas, et tout ça. Une grande journée, à partir de
14h.
Et ça finit à minuit.
Voilà.
Avant de se changer.
Et venez avec vos instruments, parce que ça va sûrement finir en jam. Voilà. Petit bœuf à la fin, ouais. Ça fait toujours plaisir.
Voilà, ça sera une occasion aussi de se réjouir. Mm. Ouais, ce moment-là. Ensemble,
bon, formidable. Merci Zaza Mercury et Linda Freeman d'être venus au studio Louise Michel de Radio Libertaire. Et je vous rappelle que on avait fait une première partie là autour d'Ourika, le roman, une adaptation, donc le roman de Claire de Duras. Roman qui fête les 200 ans de sa parution et dans une adaptation d'Elisabeth Tamaris qui met en scène Marie Plateau dans un seul en scène. Ça se joue tous les mardis soirs à 19h au théâtre Darius Milhaud dans le 19e arrondissement de Paris, au métro Porte de Pantin de la ligne 5, juste en face de la Villette. Voilà, donc merci de nous avoir écoutés et bon dimanche, bonne suite sur Radio Libertaire.
Radio Libertaire 89.4,
la radio de la Fédération anarchiste, la voix sans Dieu ni maître.
Pour nous soutenir financièrement, on a toujours besoin de vous pour continuer d'émettre et renouveler le matos, par exemple.
Vous pouvez télécharger un bon de souscription pour soutenir votre radio sur le site de la Fédération anarchiste.
Et qui est bien sûr modulable selon vos moyens.
Ta radio, tu l'aimes?
Alors tu la soutiens.
Pour télécharger votre bon de souscription à Radio Libertaire, rendez-vous sur le site www.radio-libertaire.net. Thank you.
braves gens, écoutez, c'est l'heure du temps que je vous donne en délice, sans manière et sans malice. Braves gens, chantez, chantez tout le temps, et ne soyez pas en retard, préparez-vous pour ces deux départs. Car il pleut sur la planète, et demain que peut-être... Sur l'arche de Noé, on ira se promener. Braves gens, applaudissez tout le temps et ne perdez pas ce rythme, car cette terre n'est pas un hymne. Braves gens, c'est le tempo du moment et je vous l'offre à votre table. Est-ce si insupportable? C'est pas... Et si le temps s'arrête, rêve ou réalité, on peut bien s'en balancer. Braves gens, tout ira bien pour l'instant. Si vous êtes dans la norme, à poil ou en uniforme, braves gens, malheureux ou bien contents, vous pénétrez dans le programme. Mais ne vendez pas votre âme, braves gens, braves gens, braves, braves, braves gens. Brave, brave, brave.
Et tremblant à la face jolie, à mon brison comme étant leur forfait. Je te salue, ô compagnon sublime, qui fit trembler les tyrans aux abois. Ton souvenir reste dans nos poitrines, ton nom gravé en lettres de gardons la souvenance. Il est tombé martyr de nos idées. Le jour viendra, nous avons l'espérance. Oui, Ravachol, nous saurons te venger. Oui, Ravachol, nous saurons te venger. Sur ton tombeau, que le vent de la guerre souffle terrible, que les clameurs du sang fassent surgir devant leurs yeux son spectre. En l'évoquant, nous serrerons nos rangs. Brisons partout leur pouvoir despotique. Les assassins par nous seront reliés. Nous prendrons pour devise. Vive Ravachol et vive l'anarchie. De mon brison, gardons la souvenance. Il est tombé, martyr de nos idées. Le jour viendra, nous avons l'espérance. Oui, nous saurons te venger. Oui, Ravachol, nous saurons te venger.
It isn't peaceful, is it? It isn't peaceful, is it? It is so full of shrieks, moans, voices, choruses of croakers, snapping shrimp clicking the joints of their claws together, white porpoises mewing and chirping. The depths are eroding, while thoughts run along the surface like insects. Memories need the water like wind, the glowing eyes of the fish, living stars, the surface fast has become my sky. Instead of turning and returning, I turned into myself, released the weights, felt every edge of humanity with the wave crests of my tongue. My heart crashes onto the beach. The fingertips of my surf grip the sand. Then let go.
Tout demande un effort, rien ne se fait sans boulot. C'est une règle d'or, rien ne tombe d'en haut. Pour arriver au port, faut ramer comme un veau. Pour être matador, faut un foutu culot. Pour gagner son beefsteak, faut aller au charbon. Pour pas être un blanc-bec, faut du poil au menton. Pour aller à menton, mieux vaut prendre l'avion. Mais pour être raciste, il suffit d'être con. C'est après des années d'intense réflexion que j'en suis arrivé à cette conclusion. Y a pas d'effet sans cause, pas de fumée sans feu. Au monde y a qu'une chose qui vienne seule, c'est curieux. Pour aimer les poulets, faut de la perversion. Pour voir des navets, faut la télévision. Pour qu'on l'appelle tonton, faudrait que ma tante en ait. Mais pour être raciste, il suffit d'être con. Pour entendre des promesses, il faut des élections. Pour que je montre mes fesses, faut du monde au balcon. Pour être bas de plafond, faut avoir un plafond. Mais pour être raciste, il suffit d'être con. La connerie étant un mal très répandu, les cerveaux, les savants se sont penchés dessus. Un rapport tout récent, Caramba a conclu qu'il n'y a pas de traitement, pas de vaccin non plus. Tout le monde grenouille, des baleines aux fourmis. Et ça bouffe et ça grouille, et ça pèse et ça crie. Depuis les deux andouilles, depuis le paradis, sac de nœuds, sac d'embrouille, il n'y a plus rien de gratuit. Pour être promoteur, faut piquer du pognon. Pour faire passer des heures, bien sous mon édredon. Pour pas rester glandeur, faut jouer du piston. Mais pour être raciste, il suffit d'être con. Pour acheter des fraises, ça n'est pas la saison. Pour que ta femme se taise, faudrait une éruption. Pour la main de ma sœur, passez à la maison. Mais pour être raciste, il suffit d'être con.
Schuldig war und das war ich eins grad so wie du. Gewiss kommt auch mal zu mir einmal einer und dann muss ich wissen, was ich tu. Und wenn er Geld hat und wenn er nett ist und sein Kragen ist auch werktagsrein und wenn er weiß, was sich bei einer Dame schickt, dann sage ich ihm nein. Hält man seinen Kopf oben und man bleibt ganz allgemein. Sicher scheint der Mond die ganze Nacht, sicher wird das Boot am Ufer losgemacht, aber weiter kann nichts sein. Ja, da kann man sich doch nicht gleich hin. Geschehen. Ach, da geht's.
überhaupt nur nein. Nein. Der erste, der kam, war ein Mann aus Kent und er war, wie ein Mann sein soll. Der zweite, der hatte drei Schiffe im Hafen und der dritte, der war nach mir toll. Und als sie Geld hatten und als sie nett waren und ihr Kragen war auch werktags rein und als sie wussten, was sich bei einer Dame schickt, da sagte ich ihnen nein. Da behielt ich meinen Kopf oben und ich blieb ganz allgemein. Sicher schien der Mond die ganze Nacht, sicher war das Boot am Ufer losgemacht, aber weiter konnte nichts sein. Ja, da kann man sich doch nicht gleich hinlegen. Ja, da muss man kalt und herzlos sein. Ja, da könnte doch viel geschehen. Ach, da gibt's überhaupt nur nein. Nein. Jedoch eines Tags, und der Tag, der war blau, da kam einer, der mich nicht bat. Und er hängte seinen Hut an den Nagel in meiner Kammer und ich wusste nicht mehr, was ich tat. Und als er kein Geld hatte und als er nicht nett war und sein Kragen war auch sonntags nicht rein und als er nicht wusste, was ich bei einer Dame schickt, zu ihm sagte ich nicht nein. Da behielt ich meinen Kopf nicht oben und ich blieb nicht allgemein. Ach, es schien der Mond die ganze Nacht. Ach, es war das Boot am Ufer losgemacht. Und es konnte gar nicht anders sein. Ja, da musste ich mich doch einfach hinlegen. Ja, da konnte ich doch nicht kalt und herzlos sein. Ja, da musste es doch geschehen. Ach, da gab's überhaupt kein